VOA Afrique, les infos à Washington.
John Linden à la présentation. Bonsoir à tous. Un deuxième sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord en préparation. En tout cas, Donald Trump a reçu une lettre très chaleureuse et très positive de Kim Jong-un, dans laquelle le dirigeant nord-coréen souhaite une nouvelle rencontre avec le président des États-Unis. C'est ce que la Maison-Blanche a annoncé ce soir. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, a affirmé qu'elle pourrait tout à fait avoir lieu d'ici la fin de l'année, même s'il a dit ne pas s'attendre à ce que Kim Jong-un se rende à l'Assemblée générale de l'ONU, à laquelle Donald Trump participera fin septembre à New York. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira, lui, demain pour discuter une nouvelle fois de la province syrienne d'Idlib, cette fois à la demande de la Russie qui veut rendre compte du sommet tripartite tenu vendredi à Téhéran, selon des diplomates. Les États-Unis, qui assurent en septembre la présidence tournante du Conseil de sécurité, ont affirmé lundi après-midi la tenue de cette session qui sera publique. En fin de semaine dernière, le Conseil de sécurité avait multiplié les réunions sur Idlib à l'initiative des États-Unis ou de l'Union européenne, mais sans avancée concrète pour freiner ou interrompre la perspective d'une vaste offensive militaire du régime syrien pour reprendre le contrôle de la province. L'administration américaine a accusé ce lundi la Cour pénale internationale d'être inefficace, irresponsable et carrément dangereuse dans une attaque sans précédent contre cette instance chargée de juger notamment les crimes de guerre et contre l'humanité. Washington n'est pas membre de la CPI. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale du président américain, a dénoncé la possibilité d'une enquête de la CPI contre des militaires américains ayant servi en Afghanistan. Les États-Unis ont notifié à la direction palestinienne leur décision de fermer la mission de l'autorité palestinienne à Washington. Les Palestiniens dénoncent ce qu'ils appellent une dangereuse escalade dans les mesures de rétorsion américaines. Selon le New York Times, la CIA est sur le point de mener des frappes secrètes contre les insurgés du groupe État islamique à partir de l'aéroport de Dirko dans le nord-est du Niger. Des responsables nigériens et américains confirment en effet que depuis plusieurs mois, des drones de surveillance partent d'un petit aéroport commercial de Dirko et surveillent le Sahara et notamment le sud de la Libye. Cette utilisation de drones est un retour à une politique qui avait été réduite lors de l'administration Obama et qui a été restaurée par le président Donald Trump.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un responsable de l'ex-rébellion Touareg dans le nord du Mali a été assassiné hier à Tombouctou. Il s'agit du commandant Saloum Ould Bekki. Il était membre de la coordination des mouvements de l'Azawad au sein du mécanisme opérationnel de coordination MOC à Tombouctou. Le MOC, une structure prévue par l'accord d'Alger de 2015 pour la paix dans le nord du Mali, est composé de militaires de l'armée régulière, de combattants des groupes armés pro-gouvernementaux et d'ex-rébellion. L'envoyé spécial pour les questions de trafic des êtres humains des Nations Unies a expliqué que le Nigeria n'en faisait pas assez pour lutter contre ces systèmes de crimes organisés. C'est ce qu'a déclaré Maria Gracia Giammarinaro au terme d'une visite de 8 jours au Nigeria, pays le plus peuplé du continent africain et dont 18 000 ressortissants sont arrivés sur les côtes italiennes en 2017, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Quelque 36 000 Nigérians étaient toujours bloqués en Libye et au Niger en décembre dernier, selon l'OIM. Les mouvements de personnes et des biens sont interdits dans la région du nord-ouest anglophone du Cameroun entre 18h et 6h du matin, et ce jusqu'à nouvel avis. C'est la décision prise par le gouverneur de la région. Cette décision intervient après l'attaque d'un convoi de bus dans la nuit de samedi à dimanche, attaque au cours de laquelle un chauffeur d'autobus a été tué et plusieurs autres personnes blessées. L'incident a été perpétré par des individus armés. C'est déroulé donc selon la télévision d'État à Akoum, village situé à quelques kilomètres de Bamenda. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi. Je vous reviens dans moins de 55 minutes. Bonsoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
English USA vous présente African Voices in Conversation, des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. C'est dur d'être coach, encore plus au lendemain d'une défaite. Ce coach amer a décidé de rester fidèle à son poste. Cela signifie clairement au journaliste Salif qu'il ne démissionnera pas. Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu. Vous répondrez par vrai ou faux, true or false, à ces énoncés. 1. Pour le coach, le championnat n'était pas un désastre. 2. L'article de Salif critiquait vraiment la veste du coach. Vous allez maintenant répondre à ces trois questions. 1. Pour le coach, comment étaient les joueurs? 2. Combien de buts l'équipe de coach a-t-elle encaissé? 3. Comment se termine l'entretien? Vous allez enfin apprendre des mots en relation avec le football et la défaite et comment exprimer le regret avec if. Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu.
Hello, listeners. Today, our guest is the coach of our national football team.
It's good to be here.
Coach, don't you think the championship was kind of a disaster?
I disagree. We played and we lost. Where is the disaster? It's just a game.
What are your feelings after what I would call a disaster?
I feel sad, of course. Hearing the tears of the children, the screams of the women, the fury of the man, it gave me feelings of shame, but also anger. Anger at the press.
Let's talk about the match. Why did the team concede 8 goals and score only 2 goals?
Our team was the best it has ever been. If the press wasn't hard on the team, we would have scored more goals.
The press? What press?
All the national press, especially you, Salif.
What did I do?
You criticized my yellow coats. I read your article. If you think I will resign, you're crazy.
Okay, back to the matches. What didn't work with the football team?
If the press respected me, I would have perfectly managed the team.
Let's talk about Ndiougou Drogba, the playmaker. What happened to him?
No, sorry. Let's talk about my yellow coat. Why did you criticize it?
If you will remember, I didn't criticize it. I only wrote that you had a green cap, a yellow coat, and red shoes.
Yes, green, yellow, and red. I'm a patriot.
All right, coach. One more question.
No more questions. Goodbye.
I guess that's all for today. We'll come back when the coach is in a good mood.
Nous avons entendu le coach et Salif, le journaliste. L'énoncé 1 est vrai. Pour le coach, le championnat n'était pas un désastre. L'énoncé 2 est faux. L'article de Salif critiquait vraiment la veste du coach. Voilà les réponses aux questions. 1. Pour le coach, comment étaient les joueurs? Ils étaient les meilleurs. 2. Combien de buts l'équipe du coach a-t-elle encaissé? 8 buts. 3. Comment se termine l'entretien? Le coach l'arrête. Répétez et retenez ces mots en relation avec le football. Une équipe de football. A football team. Un but, a goal. Encaisser un but, to concede a goal. Marquer un but, to score a goal. Le meneur du jeu, the playmaker. Répétez aussi des mots qui sont du domaine de la défaite. Désastre, disaster. Triste, sad. Larmes, tears. Cris, screams. Honte. Shame. Répétez enfin cette phrase.
If the press wasn't hard on the team, we would have scored more goals.
Ces phrases au conditionnel avec if expriment également un regret à cause d'une action non réalisée. Vous avez entendu if suivi d'un verbe au passé, ensuite would suivi d'un verbe à l'infinitif sans to. Voilà un autre exemple.
If the press respected me, I would have perfectly managed the team.
Nous avons entendu le coach et Salif dans cet entretien plutôt tendu. Vous avez appris des mots relatifs au football et à la défaite et aussi comment exprimer le regret avec if, des phrases au conditionnel. À très bientôt. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Dans cette leçon, nous allons vous présenter trois personnes d'affaires qui vont être interviewées au cours des prochaines leçons. Charles Blake, Mike Epstein et Shirley Graham. Kathy, Gary et Elizabeth vont faire des commentaires sur leurs invités. Tout d'abord, ils vont dire où ils vivent, le verbe to live au présent. He lives in Beijing, China.
Mr. Blake lives in Beijing, China.
Il vit à Pékin, en Chine. He lives in Sunnyvale, California.
Mr. Epstein lives in Sunnyvale, California, in Silicon Valley.
In Silicon Valley, une région virtuelle où se trouvent de nombreuses compagnies informatiques et de haute technologie. Silicon Valley. Ensuite, ils vont parler de leur travail. Le verbe to work au présent. He works for International Robotics.
He works for International Robotics, a Chinese company.
Il travaille pour a Chinese company, une compagnie chinoise. He works for Advanced Technology, an American company, une compagnie américaine. Que font ces compagnies? Vous allez découvrir le verbe to manufacture, fabriquer.
International Robotics manufactures industrial robots.
Par exemple, vous allez entendre International Robotics manufactures industrial robots. Fabrique des robots industriels. Produire industriellement. L'autre compagnie, Advanced Technologies makes computer components. Fabrique des pièces d'ordinateur.
Advanced Technologies makes computer components.
Computer components. Le verbe to make est passe-partout. Il peut s'appliquer dans tous les contextes. Vous l'entendrez beaucoup. It's a high-tech company. C'est une compagnie de haute technologie.
So it's a high-tech company.
High-tech company. She is his boss. Elle est son chef.
Ms. Graham is Mr. Epstein's boss. She's a vice president at Advanced Technologies.
Boss. Le directeur, le chef, ou la directrice, ou l'exécutif. She's a vice president. Elle est la vice-présidente. Écoutons la conversation qui suit. Listen.
Our first guest will be Charles Blake. Mr. Blake lives in Beijing, China. He works for International Robotics, a Chinese company.
What kind of company is it?
International Robotics manufactures industrial robots.
Robots? So it's a high-tech company.
Yes, it is. Then, in another program, we'll interview Mike Epstein. Mr. Epstein lives in Sunnyvale, California, in Silicon Valley. He works for Advanced Technologies, an American company.
That sounds like a high-tech company, too.
Yes, Advanced Technologies makes computer components. The third person we'll interview is Shirley Graham. Ms. Graham is Mr. Epstein's boss. She's a vice president at Advanced Technologies.
Écoutez et répétez. Listen and repeat.
Mr. Blake works for International Robotics, a Chinese company.
Il travaille pour International Robotics, une compagnie chinoise.
International Robotics manufactures industrial robots.
Fabrique des robots industriels.
Mike Epstein works for Advanced Technologies, an American company.
Une compagnie américaine.
Advanced Technologies makes computer components. Shirley Graham is Mr. Epstein's boss. She is a vice president at Advanced Technologies.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. Ici Michel Joseph. Hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h temps universel sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com et en ondes courtes le samedi et le dimanche à 20h temps universel. Ne ratez pas English USA. Aujourd'hui, Martin est chez le dentiste pour se faire soigner les dents. Today, Martin is at the dentist. Au cours de cette leçon, vous allez apprendre à décrire une action en cours. English USA est diffusé en direct de Washington au micro Michel Joseph. Aujourd'hui, vous allez apprendre à décrire une action qui se déroule. Martin se fait soigner les dents. Il a confiance à son dentiste et n'a pas trop peur. Martin trusts his dentist. Martin a confiance à son dentiste. Martin trusts his dentist and is not too scared. Il n'a pas trop peur. Vous savez, il faut aussi posséder les qualités personnelles pour devenir un bon dentiste. Martin décrit ses symptômes et l'endroit exact de la dent qui lui fait mal. It's on the right side. C'est la dent qui se trouve à droite. It's on the right side. Le dentiste est très prudent. Does that hurt? Does that hurt? Lorsqu'il est en train de frapper la dent. Cela vous fait mal? Does that hurt? Écoutons leur conversation avant que le dentiste commence son travail.
How are you, Martin?
Fine, I think.
Any problems with your teeth?
I think I have a problem with one.
Tell me which one.
It's on the right side, all the way back.
Is it an upper or lower tooth?
The lower right side.
Let's take a look. Open your mouth.
What are you doing?
Sorry, I dropped the mirror.
Isn't that bad luck?
Not for a dentist. Open up. I'm looking at that tooth. Is it this one?
Yes.
Okay. I'm tapping on the side. Does that hurt? I'm drilling out the old filling now. Just a little more. Can you feel that?
Uh-uh.
I'm washing it out now. There, that looks good. You can relax now.
You're not finished, are you?
I'm finished with the drilling, unless I find something else. I haven't checked everything. First, I'm going to fill this tooth. Relax a minute.
How long have you been a dentist, Dr. Jensen?
About 6 years. I was working in Southern Maryland before I moved to Baltimore. I joined Dr. Cohen here about a year ago.
Is Dr. Cohen going to retire?
Yes, but not soon. In a few years. He doesn't want to work so hard.
That's nice for both of you.
Yes, it is. Okay, I think we're ready.
Pour décrire une action en cours, on utilise le présent du verbe être ou to be, du verbe to be, accompagné du verbe qui décrit l'action. Par exemple, I'm giving you a shot. Je vous fais une piqûre. I am giving you a shot. Ou bien, I am pressing on your jaw. J'appuie sur votre mâchoire. I am pressing on your jaw.
Now, that wasn't too bad, was it?
Not bad.
But we aren't finished. Just relax.
Exerçons-nous avec un peu de vocabulaire. Essayons d'utiliser ces verbes que l'on a entendus au présent avec des expressions que vous avez déjà entendues ici avec Martin Lerner chez son dentiste. Voyons le verbe to fill, rempli, dans le cas de remplir un plombage. Filling, un plombage. Le dentiste dit The filling is cracked. I'm going to fix your filling. Je vais réparer votre plombage. To give, donner. Le verbe en exemple, I'm giving you something to stop the pain. Je vous donne quelque chose pour arrêter la douleur. Ou contrôler la douleur. I'm giving you something to stop the pain. I'm going to fill this tooth. Je vais faire un plombage à cette dent. I'm going to fill this tooth. To tap, frapper légèrement. I am tapping on the tooth. I am tapping on the tooth. Je frappe légèrement la dent. Take care. Elle demande, la dentiste ou le dentiste, lui demande, Do you take care of your teeth? Est-ce que vous prenez bien soin de vos dents? Do you take care of your teeth? How was this visit at the dentist? Comment était cette visite chez le dentiste? J'espère que vous n'avez pas eu trop mal et que vous avez bien appris à décrire une action en cours. I'm saying goodbye. Je vous dis au revoir et à la prochaine. In the meantime, have a great practice and a great week. Until next time, take care of yourself. Prenez bien soin de vous-même. Goodbye.
To Anglais Télé. Bienvenue à Anglais Télé. We are talking with Issa, who is a Humphrey Fellow. He is a professional journalist from Burkina Faso, and he is here
to fulfill my fellowship here.
Okay.
And so I've already spent almost a year.
Okay,
in an academic program, yes.
Fantastic. So you have been here 1 year.
Yes.
Okay. And previous to this, we had just spoken about the challenge of practicing English, developing your vocabulary. How are you with that right now, Issa?
I have to say, after a year in the United States, yes, speaking it, interacting with so much people, so many people, I mean, it's just amazing how I got my language improved, you
okay.
know, because, you know, when you can speak and be corrected by people, I know, when you interact and they say, no, you have to just have to say that way, to put it that this way or that way, it's really excellent for me. And that really helped me to improve not only my vocabulary, but also my grammar, because that was, I wanted to say a little challenge, but it was a big challenge too, because, you
okay.
know, yeah, that's it.
No, let's be honest.
Yeah.
This was a huge challenge. So you've improved in
vocabulary. And in grammar.
Yeah. And also probably putting sentences together in the
yeah.
correct way.
Exactly, because sometimes there are some expressions when you want to translate them in French, for example, they don't have, the same meanings. English is very practical. You can use, for example, when you take the word get. Get can be used in so many ways.
And actually, English is also creative. You're talking about practical, but by adding adjectives, adverbs, you can transform one verb into many, many, many verbs.
That's right.
Just by adding the extra pronoun or adjective.
Exactly. It's like up.
Okay.
When you add up or out, you can just change the meaning of an expression.
Okay.
Yeah.
You know what? We're going to find out how Issa lived his experience. Now, I'm going to ask you, talking about using up, off, on, were you on campus or off campus? Pour parler de sa vie sur campus universitaire. So I'm asking him, was he on campus or off campus?
I have to say that I was off campus, but I was having my classes on campus.
Okay, very good.
Yep. I was living off campus.
Right,
so
he was
that's
living
it.
Off campus.
Yeah.
Okay, that's excellent. Mm. So how did you adapt? What was your process?
Yeah, you know, it was not easy because, you know, the first things which struck me very well when I arrived in Phoenix, that was the place I've studied all the year.
All right, Phoenix is in Arizona for our listeners,
mm-hmm.
okay, which is west.
The west coast.
West coast
yeah.
of the U.S. and very desert-like.
Very desert.
Okay.
That's the point.
Not very different from Burkina Faso.
That's the point I wanted to make. In Burkina Faso, it's not that I was not used to a warm weather, but the fact is there I really faced a very hot, not warm, hot weather and a dry one,
okay.
because when the heat is out there and it's dry, it's not that easy, because in Burkina Faso, for example, it's more humid.
Okay.
You see, so it's very different.
So there's dry and hot.
Yeah.
And there's hot and humid.
Yep.
Which is the tropical component, that
mm-hmm.
humidity.
Mm-hmm.
And so that was a challenge for
yeah,
you?
That was a big challenge, because, you know, when you sweat,
yes,
it just disappears at the same time. So it looks like your skin is burning.
Oh, my God.
Yeah,
goodness.
You have a kind of feeling that, oh, my God, you have to look for a place to shelter.
Okay.
You know, in order to avoid being
right.
yeah.
Did you wear any hats?
Roasted by that.
Roasted. Okay. So can you imagine, okay, for the rest of our listeners who are back home, maybe in West Africa, he was in a place that was hotter than your home. So
yeah.
Dry heat.
That's what definitely I will say. But you know, I just took a few weeks to adapt.
Okay,
yeah.
So he took a few weeks to adapt,
mm-hmm.
which is fantastic, to
yeah.
be honest.
Mm-hmm.
We will come back and look closely at this adaptation. Stay with us.